C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 18e que nous ferons ce matin notre lecture à partir du verset 28 jusqu'au verset 40. Jean 18, verset 28 à 40. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre à mort, personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs te livraient à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Lui, mais Barabbas. Tel est le cri qui s'est élevé et qui est monté jusqu'au trône du Dieu éternel, du Dieu vivant, au matin de cette fameuse nuit où Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsemane, tel un brigand, un malfaiteur, et traduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Non pas lui, ont-ils crié. Non pas Jésus, nous n'en voulons pas. Un cri qui est d'autant plus interpellant qu'il est celui non pas d'hommes et de femmes qui méconnaissaient Dieu, d'un peuple païen, en l'occurrence ici les Romains qui alors régnaient en maître sur toute la Méditerranée, mais c'était le cri d'hommes et de femmes qui se réclamaient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu de la Torah, de la loi et des prophètes, et qui par surcroît, 3 années et demie durant, ont été en contact de Jésus, l'ont accompagné sur les chemins de la Palestine, l'ont précédé même au lieu où il se rendait, dit un texte, tant il devait être, je l'imagine en tout cas, avide d'entendre celui qui parlait, comme jamais homme n'avait parlé auparavant, mais certainement avide de ces miracles. Ce qui fera d'eux dès lors des témoins oculaires de multiples guérisons opérées par Jésus sur des paralytiques, des aveugles, des boiteux, des sourds et des muets. Sans oublier que durant tout ce temps, ils ont vu de leurs yeux vus des morts ressuscités, des démoniaques délivrés, tout comme ces milliers d'hommes et de femmes qui, par deux fois, ont été nourris par Jésus à partir d'un casse-croûte. Alors oui, ils ont été les témoins oculaires de tous ces événements. Ils les ont vécus et pourtant ce matin-là, tel un seul homme devant le prétoire, ils ont crié non pas lui, mais Barabbas. Et au chapitre suivant, nous lisons qu'à deux reprises, ils vont inviter à nouveau Ponce Pilate à le crucifier. Crucifie, crucifie, ont-ils dit. Ôte-le, en quelque sorte, de notre vue. Interpellante, n'est-il pas vrai, cette attitude, cette démarche, du peuple d'Israël à l'égard de Jésus, alors que celui-ci, tout au long de son ministère, n'a cessé de leur manifester son amour, n'a cessé de leur manifester sa puissance à leur égard, sa guérison, sa délivrance. Et cette attitude est d'autant plus interpellante qu'elle traduit non pas un événement isolé, non pas un incident de parcours, mais un rejet, un refus, une opposition farouche que Jésus-Christ a dû, tout au long de ce ministère, affronter. Aussi, souvenez-vous, et je ne citerai que ces quelques exemples, car ils sont nombreux et il nous faudrait aussi pouvoir souligner chacune de ces références. Souvenez-vous que, entre autres, à Gadara, on l'a supplié de quitter le territoire, qu'à plusieurs reprises, on a voulu le lapider, le mettre à mort, et qu'à Nazareth, cette ville où il a grandi, où il a vécu à peu près 30 années durant, il a été emmené. Emmené peut-être par ceux-là même avec qui il a grandi, avec qui il a joué lorsqu'il était enfant, emmené au sommet de la montagne sur laquelle est-il écrit « Leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas ». Alors oui, l'événement auquel nous assistons devant le prétoire de Ponce Pilate n'est pas un incident de parcours. Et c'est tellement vrai que l'évangéliste Jean écrira au chapitre 7 « Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Juda. Pourquoi ? Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. » Oui, ce ne fut pas un incident de parcours, ce qui s'est passé devant le prétoire de Ponce Pilate. Et il en fut ainsi jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, le peuple d'Israël et à sa tête, les responsables religieux, n'ont eu de cesse de le persécuter, de poursuivre Jésus de leur haine viscérale et meurtrière. Et ce faisant, tout au long de son ministère, ils ont crié « Non pas lui, non pas lui, mais Barabbas ». Mais vous savez, les disciples de Jésus n'ont pas été en reste. Ils n'ont pas échappé à la règle. Au risque de vous surprendre, je dirais que quelque part, ils ont tenu le même discours. En effet, la nuit de la célébration de la Pâque et de l'institution de la Sainte Cène, à quoi assistons-nous? Que voyons-nous? Sinon, tout d'abord, Judas Iscariote, qui pour son Barabbas va vendre Jésus, va le trahir pour 30 pièces d'argent. Et puis n'oublions pas Simon-Pierre, le fougueux, cet homme qui se croyait meilleur, plus fort que tous les autres. Il va, par trois fois pour sauver sa vie, dans la cour du souverain sacrificateur, renier son maître lui aussi. Jérôme Mordicus ne pas le connaître. Et puis que dire des autres disciples? Sinon que tous, à part un seul, et c'est dans notre chapitre que nous trouvons ça un peu plus haut, tous sans exception, pour la même raison, pour sauver leur vie, vont s'enfuir. Pas un seul ne va prendre fait et cause pour son maître. pas un seul n'a pas échappé à la règle. Mais ayant établi ce fait, qu'en est-il en ce qui nous concerne? Qu'en est-il en ce qui me concerne? Suis-je à l'abri d'un tel discours? Quel spectacle ai-je offert à mon Seigneur, tout chrétien que je suis, durant cette semaine? Ne serait-ce pas celui dont il est question dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, lorsqu'il est déclaré « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et remarquez que celui qui s'identifie, il s'identifie ici au peuple d'Israël, et qui à ses côtés s'assoit sur le banc des accusés et confesse son péché, dit « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas », n'est autre que le grand prophète Ésaïe, un des plus grands hommes de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Alors, on aura plus forte raison, ne devrions-nous pas nous inspirer de son exemple et nous asseoir sur le banc des accusés et dire « Oui, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Chaque fois où je n'ai pas tenu compte de ce qu'il m'enseigne, de ce qu'il me dit, concernant mes regards, concernant mes pensées, concernant mes actes, mes projets, mes loisirs, ou encore mes paroles. Et ce faisant, qu'ai-je fait? Alors, sinon, dire non pas lui, mais Barabbas. En tout cas, suppliant Jésus de quitter leur territoire, les Gadaréniens dont je viens de citer l'exemple, et vers lesquels j'aimerais me tourner maintenant avec vous, ces Gadaréniens ont laissé passer ce message lorsqu'ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Et pourtant, Jésus venait d'accomplir au milieu d'eux un miracle extraordinaire, une délivrance extraordinaire sur la personne d'un démoniaque qui était, nous était dit, nuit et jour, sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Oh, il est vrai qu'à plusieurs reprises, on a voulu le lier avec des chaînes, lui mettre des fers aux pieds, mais à chaque fois, il a brisé ses chaînes. Il a brisé ses fers, il a rompu ses chaînes. Et quoi d'étonnant que le texte souligne, et personne n'avait la force de l'adopter. Ce personnage a donc été un fardeau très lourd à porter pour les Gadaréniens. Un problème inextricable, parce qu'il était un danger pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et alors que Jésus venait de le délivrer, d'apporter une réponse à leur problème, alors qu'il vient de leur enlever ce terrible fardeau qui pesait sur eux, pour toute reconnaissance, ils vont supplier Jésus de quitter leur territoire. Mais pourquoi? Pourquoi? Sinon parce que eux aussi avaient leur Barabbas, et non pas des moindres, qui avaient pour nom leur revenu, les avantages que leur assuraient l'élevage et le commerce des pourceaux, un revenu, un avantage qui ce jour-là a été pour le moins que l'on puisse dire raboté, ramené à sa plus simple expression, mis à mal. En effet, en délivrant ce démoniaque, il est dit que la légion de démons qu'il habitait, sortie de cet homme sur ordre de Jésus, a pris possession d'un troupeau d'environ 2000 pourceaux et qui se sont précipités des pentes escarpées jusque dans la mer de Galilée et ont péri dans les eaux. Alors pourquoi donc, je vous le demande, aurait-il dû faire bon accueil à Jésus ce jour-là? Lui qui venait de les priver, de leur enlever le fruit d'un travail, d'un labeur de plusieurs années peut-être. Qu'auriez-vous fait à leur place? Qu'aurais-je fait? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre sans sourciller, en tout cas avec enthousiasme. Et ce n'est certes pas le jeune homme riche dont nous parlent les évangiles qui nous dirait le contraire, qui, souvenez-vous, lorsqu'il apprend de la part de la bouche de Jésus qu'il lui faut, s'il veut être parfait, selon la question qu'il venait de poser à Jésus, s'il voulait hériter, entrer dans la vie éternelle, qu'il lui fallait vendre tout ce qu'il possédait, le distribuer aux pauvres, puis aller à Jésus et le suivre, ce jeune homme s'en alla, nous est-il dit, tout triste. Tout triste parce qu'il avait de grands biens. Tout triste parce que notre nature humaine, la nature humaine, nous le savons, voudrait être gagnante sur tous les plans, sur tous les tableaux. Et c'est ainsi que notre nature humaine veut avoir les poires et les sacs, le beurre et l'argent du beurre. Nous voudrions avoir la vie éternelle comme cet homme, comme ce jeune homme riche, mais garder aussi nos Barabbas. Mais que dit la parole de Dieu? Que nous enseigne-t-elle à ce sujet? Dans son sermon sur la montagne, s'adressant à ses disciples et par là même à chacun d'entre nous, Jésus rappelle que nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître, et cela le jeune homme riche ne l'avait pas compris. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, et d'ajouter, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ainsi donc, avec Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de voie médiane, intermédiaire. C'est soit l'un, ou soit l'autre. Et c'est un message qui pourrait nous sembler très dur, intransigeant. Il ne permet aucun compromis dont il a été question tout à l'heure dans la présidence. Il ne permet pas aucun compromis. Mais si Jésus, voyez-vous, a jugé bon d'insérer ce message dans son sermon sur la montagne et nous le faire parvenir 2 millénaires plus tard, c'est parce qu'il en va, voyez-vous, de notre cœur, de notre salut. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce cœur que Jésus a tellement aimé, pour ce cœur, il a accepté, nous le savons, de quitter sa gloire céleste et éternelle, de venir jusqu'à nous, de se faire homme, de revêtir notre humanité. Mais il a aussi accepté, et surtout accepté, pour ce cœur, au sortir du prétoire de Ponce Pilate, d'être traîné dans les ruelles de Jérusalem, portant sur ses épaules meurtries une croix trop lourde à porter, sous les coups, sous les crachats. Pour ce cœur, il a accepté que soit posée sur son front une couronne d'épines et que son visage soit outragé par d'indignes soufflets. Oui, tout cela, il a accepté. Tout comme il a accepté pour ce cœur d'être suspendu entre le ciel et la terre, les pieds et les mains transpercés par d'horribles clous, les clous de nos indifférences, le clou de la dureté de notre cœur, de nos révoltes, le clou de notre péché. Là, il a accepté d'être cloué contre un gibet infâme. Telle fut la somme de son amour pour ce cœur, de son amour pour nous. Mais cela étant, qu'en est-il de ce cœur aujourd'hui? Qu'en est-il de mon cœur? À qui, à quoi est-il attaché? Qui sert-il aujourd'hui? Qui sert-il lorsque j'accorde à mon sauveur les miettes de mon temps? Les miettes de mon temps pour prier. La réunion de prière, c'est pour les autres. Les miettes pour lire la parole de Dieu, pour l'étudier, pour la méditer. Qui sert-il lorsque j'accorde à mon sauveur les miettes Et pourquoi ne pas en parler? Les miettes de mon argent. Qui sert-il? Ne serait-ce pas mon Barabbas ou mes Barabbas, qui, nous le savons, sont nombreux, ils font légion dans le cœur de notre vie. Et de ces Barabbas, eh bien, la Bible en parle, elle nous les révèle, et nous rappelle entre autres que l'un d'entre eux, l'un de ces Barabbas, qui nous concerne tous sans exception, est celui qui nous est rapporté dans le récit de la résurrection de Lazare. Lazare qui, comme chacun le sait, depuis 4 jours déjà, reposait dans son sépulcre. Et cet événement, certainement, a été majeur dans les annales de l'histoire d'Israël. En tout cas, et pour le moins, dans celle de Béthanie. Et cet événement, me semble-t-il, aurait dû être pour tous, sans exception, synonyme de festivité, synonyme de grande réjouissance jusqu'aux aurores, autour d'un barbecue géant arrosé, le tout par ces vins fameux prestigieux que l'on connaît sur le Golan. Oui, à l'évidence, c'est ce qui aurait dû se passer, se produire. Mais à notre grande surprise, il est dit dans le même texte que dès ce jour-là, ils, c'est-à-dire les responsables religieux, résolurent de faire mourir Jésus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il leur faisait de l'ombre. Une ombre à ce point insoutenable, une ombre à ce point impensable, qu'ils ont alors provoqué, disons-nous en substance, une assemblée générale, un conseil extraordinaire, avec pour seul mot d'ordre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles, et si nous le laissons faire, tous croiront en lui. C'était, je l'ai dit, une situation inacceptable. Il ne pouvait la permettre, il ne pouvait même l'entrevoir, parce que leur orgueil, voyez-vous, ne leur permettait pas. Tel était le Barabbas de ces responsables religieux. Mais un Barabbas, qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, s'invite bien souvent dans ma vie, dans notre vie. Cet orgueil qui empoisonne ma relation avec Dieu, mais aussi avec mon prochain. Ce prochain qui, comme dira Gandhi, nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à aimer, non seulement à aimer, mais aussi à le considérer comme étant supérieur à nous-mêmes. Et il en est ainsi parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et c'est ainsi que, dans son appel solennel, l'apôtre Paul va exhorter les Philippiens à être animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, en se dépouillant lui-même, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et moi, pauvre créature, dans ma folie, dans mon insignifiance, dans mon orgueil, je continue à bomber le torse, ne me rendant même pas compte que je suis là, à l'image de ceux et celles qui, devant le prétoire, ont crié, non pas lui, mais Barabbas. Ces Barabbas, je viens de le dire, ils sont nombreux, ils sont légion presque dans notre vie. Et parler de chacun d'entre eux ce matin serait, dans le temps qui nous est imparti, une gageure. Tout à l'heure, en entrant, Achille m'a dit que le temps à dépenser, c'est 52 minutes. Je ne veux pas les dépenser. Mais j'aimerais quand même, pour terminer, rappeler encore un de ces Barabbas qui nous concerne également tous, sans exception. Et ce Barabbas, nous le trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 51-56, dont nous ferons maintenant la lecture. Évangile de Luc, chapitre 9, 51 pas 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui les messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour prendre les âmes, pour perdre des âmes, pardon, des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pour essayer de saisir au mieux la pensée centrale de ce court passage, le pourquoi du refus des Samaritains d'accueillir Jésus, nous devons nous souvenir que ces derniers, les Samaritains, qui ne sont cités qu'une seule fois en tant que tels dans l'Ancien Testament, et c'est exactement dans 2 Rois, chapitre 17, verset 29, ces Samaritains sur la terre d'Israël étaient des étrangers. Et c'est Jésus lui-même qui, à la suite de la guérison des 10 lépreux, nous le dit. Un de ces Samaritains, lisons-nous, lorsqu'il retourne sur ordre de Jésus, il va réaliser qu'il est guéri, et il est dit qu'il revint sur ses pas et glorifia Dieu en haute voix. Et ce qui fera dire à Jésus, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Oui, les Samaritains étaient des étrangers, et qui avaient ceci de particulier, c'est qu'ils pratiquaient une religion mixte qu'ils avaient ramenée de l'Arabie et de Hamat en Babylonie. Ils pratiquaient une religion mixte mélangeant leur idolâtrie ancestrale à l'enseignement de la Torah. Ce qui a fait que très tôt, la plupart des Juifs refusèrent de s'unir à eux, socialement et spirituellement, un refus qui au fil du temps a pris la forme d'une répugnance, d'une antipathie et d'un tel mépris qu'ils crachaient par terre, si l'on en croit les commentateurs de la Bible, lorsqu'ils se croisaient. Et c'est donc dans ce contexte-là, dans cette ambiance des plus idylliques et engageantes, que Jésus, nous est-il rappelé, décide de s'arrêter dans un bourg de Samarie avant de se rendre à Jérusalem. Jérusalem, la cité de Dieu, du Dieu vivant. Et la suite, nous la connaissons, nous venons de la lire. On ne le reçut pas parce qu'il se rendait à Jérusalem. Jérusalem qui est, comme chacun le sait, le lieu de l'adoration par excellence des Israélites, tandis que pour les Samaritains, le centre culturel et spirituel, était sur le mont Garizim. Ce que d'ailleurs la Samaritaine rappellera à Jésus lorsqu'elle viendra puiser de l'eau au puits de Jacob à Sichem. Elle lui dira : Nos pères, lui, ont adoré sur cette montagne, mais vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors que retenir de ce qui vient d'être dit au sujet de ces Samaritains et des textes cités à ce sujet, sinon que le fossé infranchissable qui séparait ces deux communautés et le refus des Samaritains d'accueillir Jésus au milieu d'eux, de lui accorder l'hospitalité, avait pour raison, la tradition. Tout simplement la tradition. Une habitude qui, quelque part, ressemble étrangement à la nôtre. Lorsque, le dimanche matin, nous nous rendons au culte. Lorsque nous nous rendons au culte, non pas imprégnés de la pensée, non pas dans la joie de la pensée que nous allons rencontrer ensemble notre Seigneur, le prier, l'adorer, le chanter, mais tout simplement par habitude, Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, bien. Il m'est arrivé de me rendre au culte, d'aller au culte, par habitude. Une habitude que je ne voulais pas rompre, parce que je savais ce que les autres allaient penser, se dire peut-être. Aussi, quoi d'étonnant, que ce que nos lèvres ont proféré, ce que nos lèvres profèrent le dimanche matin au culte, ce que nous avons dit à notre Seigneur, à haute voix ou en silence, notre cœur ne nous le dit plus. Nous n'y pensons même plus dès que nous avons franchi le seuil de la maison de Dieu et que nous nous sommes éloignés de la table du Seigneur que nous allons partager bientôt. Et notre vie chrétienne, alors, ressemble à quoi? Sinon, à ces cierges que l'on allume, qu'on a coutume d'allumer dans certaines églises, mais que l'on éteint dès que l'on en sort, afin de réintégrer le cours habituel de notre existence, où finalement le Seigneur n'a pas la place qui lui revient. Cette place qui lui revient de droit, il n'est pas ce roi dont Ponce Pilate a parlé jusqu'au bout, nous l'avons vu dans notre texte. Ce roi, et qui nous le savons, revient bientôt, et devant lequel il nous faudra comparaître. Oui, il revient bientôt, parce que de concert avec toutes les prophéties bibliques, depuis 2 millénaires déjà, le repas du Seigneur, communément appelé la Sainte Cène, annonce ce retour. Ce retour en gloire de Jésus-Christ, et qu'en parallèle, les événements mondiaux qui se précipitent de plus en plus, se bousculent et s'entrechoquent, nous le confirment. Oui, Jésus revient bientôt. Devant lui, nous devrons comparaître. Mais la question qui demeure et attend de nous la réponse est la suivante. Suis-je prêt? Nous parlons du retour de Jésus-Christ, mais suis-je prêt? Oui, suis-je prêt vivant dans la pensée du retour de mon Sauveur, dans la joie, dans l'espérance de ce moment, en veillant et priant, comme l'enseigne Jésus dans le jardin de Gethsémané. Veillant et priant, sur et pour mon âme, en demandant ainsi à mon Sauveur que dans l'attente de son retour, les jours qu'il m'accordera dans sa compassion, si petits, il est vrai dans leur durée, mais combien grand par leur avenir, que ces jours puissent être mis à profit par moi pour déposer aux pieds de la croix mes Barabbas et les mettre à mort. Mettre à mort ceux-là même qui m'éloignent de lui, me conduisent de défaite en défaite et me laissent un goût amer dans la bouche que rien ne peut effacer sinon son pardon. Et en attendant ainsi ce moment, je puisse dire sans cesse, avec vérité et sincérité, Seigneur, non pas mes Barabbas, non pas mes biens, mon orgueil, mes habitudes, mes loisirs ou encore mes regards et mes paroles indignes, mais toi, toi seul, dans ma vie. C'est là mon désir, c'est là mon volonté. Mais Seigneur, tu sais de quoi je suis fait. Tu m'as formé dans le sein maternel aussi. Secours-moi. Amen.